Tous les hommes aiment Dieu. Tous croient aussi. Même les démons aiment Dieu et ils croient aussi. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Cet enseignement va vous éclairer sur ce que c'est aimer Dieu. D'ailleurs, Dieu lui-même ne dit pas que mon peuple est détruit parce qu'il ne m'aime pas. Il parle de la connaissance. Jésus-Christ utilise le verbe connaître. Connaître d'abord et ensuite l'aimer selon sa volonté. Car l'aimer sans le connaître, ton amour ne servira à rien. Donc, par cet enseignement audio, écoutons ce que c'est aimer Dieu. Aimer Dieu. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » On doit se poser cette question. Comment aimer Dieu? Comment un homme doit aimer Dieu alors qu'il ne le voit pas? Nous allons par cet enseignement éclairer nos frères et nos sœurs, croyants chrétiens, sur ce sujet d'aimer et comment l'aimer. D'abord, quelle est la première mission de Jésus-Christ sur cette terre des hommes? Jean 17, verset 3, et après nous prendrons le verset 6. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Toujours dans Jean 17, versets 25 et 26. « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes pour nous faire connaître qui était son Père. Dans tous ces passages, le Fils de Dieu utilise cette phrase. Te faire connaître. Et Dieu, dans le livre du prophète Osée, déclare ceci. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il parle ici à propos des enfants d'Israël. Il dit « Mon peuple périt faute de connaissance » parce que les enfants d'Israël n'avaient pas la connaissance de Dieu. Ils ne le connaissent pas. Moïse, le médiateur entre Dieu et les Israélites, n'avait pas fait connaître Dieu, c'est-à-dire exprimer la personnalité de Dieu en le sanctifiant par son comportement, son attitude et sa conduite devant les enfants d'Israël. Deutéronome 32, versets 49 à 52. Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Meriba à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse, le médiateur entre Dieu et Israël, n'avait pas utilisé la même phrase comme Jésus-Christ. Te faire connaître. Donc les enfants d'Israël n'étaient pas considérés comme des rebelles. Ils n'aimaient pas Dieu, mais ils avaient peur de la loi contraignante qui leur était imposée par Moïse. Ils avaient aussi peur lorsqu'ils entendaient les tonnerres quand Dieu s'exprimait. Et ils avaient peur aussi du feu de Dieu quand il se manifestait. Deutéronome 18, verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » Ils n'aiment pas Dieu tout simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Dans cette alliance, Dieu n'a jamais demandé aux enfants d'Israël d'être ses imitateurs. Ni Moïse, ni son frère Aaron n'a fait connaître la personnalité, la nature, la vie de Dieu visiblement aux enfants d'Israël. C'est le péché qui les cachait de la véritable face de Dieu. C'est cela le rideau qui cachait le lieu saint de saints du sanctuaire aux Israélites. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais dans la nouvelle alliance, par le médiateur Jésus-Christ, ce rideau est déchiré. Il n'y a plus de secret entre Dieu et ses enfants adoptifs, car ils savent et voient également par grâce la nature et la personne de Dieu. La question que Philippe, l'apôtre, a posée, il ne la posait pas pour lui-même, mais pour tout le monde afin de voir et connaître Dieu le Père de Jésus-Christ. Jean 14, versets 8 à 11. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Dans cette réponse, Jésus-Christ n'invite pas Philippe dans un endroit ou dans un lieu quelconque pour lui montrer où son Dieu habite. Mais Jésus-Christ, par son témoignage vivant, dans la chair identique à la nôtre, nous a montré de quelle manière nous pouvons voir le Père. Pas dans un endroit ou dans un lieu quelconque, mais en lui-même, c'est-à-dire son corps. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le Père qui n'a pas un corps de chair, de sang et d'eau étant esprit, son Père s'exprime par le corps de son enfant. Marc 1, verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Colossiens 2, verset 9. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Hébreux 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Seigneur Jésus-Christ connaissait bien son Père, et son amour vers son Père était de le porter et ne faire rien d'autre que la volonté de son Père. Il incarna la vie de son Père visiblement. Jean 10, verset 15. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Jean 14, verset 7, et après nous prendrons le verset 20. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. C'est en connaissant Dieu que son fils adoptif l'aimera sincèrement. Alors, connaître Dieu et l'aimer, c'est l'exprimer corporellement et s'éloigner du mal. Job 28, verset 28. Puis il dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Aimer Dieu, c'est fusionner avec lui et vivre sa vie. La vie d'amour, de compassion et pardon vrai, de partage et de la paix. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Maintenant, cet amour de Dieu, son fils adoptif, comment va-t-il l'exprimer et envers qui ? Matthieu 22, versets 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le premier commandement sera validé que par l'accomplissement du deuxième commandement. Voyons 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jean 12, verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Sans l'accomplissement du deuxième commandement, toi, soi-disant aimer Dieu, n'est qu'un bruit inutile. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ésaïe 30, verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain, son semblable. Et cela sans distinction de la religion, de la race, de la langue. Aimer Dieu, c'est accomplir la loi royale de Jésus-Christ. Jacques 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Matthieu 25, verset 35 à 40. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ? Ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison ? Et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Aimer Dieu, c'est rendre un culte agréable à Dieu. Ce culte ne se déroule pas dans un endroit ou dans une salle, mais ce sont les actes ou les gestes, les attitudes et la conduite que le croyant chrétien pose tous les jours, à tout moment. Aider un vieux monsieur à traverser une rue, c'est un culte agréable à Dieu. Soutenir un homme ou une femme dans de réelles difficultés, c'est rendre un culte agréable à Dieu. Exercer la charité, le partage, c'est un culte agréable à Dieu. Pardonner à un homme ou à une femme qui vous a offensé, c'est un culte agréable à Dieu. Accueillir un homme dans la détresse, c'est un culte agréable à Dieu. Sauver un homme en danger, c'est aussi faire un culte agréable à Dieu. Celui qui exerce toutes ces choses exprime la nature de Dieu. Il porte en lui la personnalité de Dieu d'amour. Celui qui rejette le mal et qui fait le bien connaît Dieu et aime Dieu. Par contre, les rites et les traditions que les chefs des églises imposent aux croyants chrétiens n'ont rien à voir avec connaître Dieu et l'aimer. Matthieu 15, versets 6 à 9. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. » Celui qui exprime Dieu par ses actes et gestes sont reconnus véritablement enfants adoptifs. Gardant ces choses jusqu'à la fin de leur parcours sur la terre des mortels, eux verront certainement le Père. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Le corps du croyant chrétien est une maison où doit habiter l'Esprit de Dieu et Christ sa parole pour exercer sa volonté. Hébreux 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Jésus était le corps porteur de la parole de Dieu, de Christ. Jésus, en fusionnant avec Christ qui est la parole, le Père, les deux sont devenus un, d'où le nom de Jésus-Christ. Et cela était la volonté de Dieu pour que l'homme soit affranchi par la vérité, non celle des hommes, mais celle de Dieu lui-même. Et cela pour nous sauver de la mort. Dieu est venu lui-même nous annoncer la vie éternelle par son Fils. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a pris en nous la parole de la réconciliation. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et comme Jésus était le corps porteur de la parole de Dieu, de Christ, c'est dans ce corps que Christ a fait voir corporellement la volonté de Dieu. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Celui qui vit dans le péché ne peut pas être le Fils de Dieu, parce qu'il n'exprime pas la personne de son Père. Il exprime la vie d'un autre. Ce n'est pas le fait d'aller chaque dimanche dans une église des hommes, chanter et danser, déposer des dîmes et des offrandes, ce que Moïse, le médiateur de l'ancienne alliance, avait ordonné. Qu'on se dit enfant de Dieu et que j'aime Dieu. Je m'accroche à Dieu, car sa vie n'exprime pas la personnalité de Dieu saint et d'amour. C'est dans la nouvelle alliance que Dieu a dit « Soyez mes imitateurs ». Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Car Jésus-Christ a montré comment il faut aimer Dieu et comment lui rendre un culte agréable. Jean 13, versets 15 à 17. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jean 15, 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Maintenant, dans cette alliance, quelle est la place d'un serviteur de Jésus-Christ? Marc 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Matthieu 28, verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà le rôle du serviteur de Jésus dans la nouvelle alliance. De prendre soin des brebis du Seigneur. Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes amis. » Non de les dépouiller, les dominer, de s'imposer sur eux, faire des enfants de Dieu des esclaves. Nous sommes tous des frères, pas de chef d'un côté et moins encore de l'autre. Ézéchiel 34, versets 1 à 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Matthieu 23, versets 13 et 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites, pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Voilà pour cet enseignement, frères et sœurs, amis en Christ. Vous avez compris en jugeant par vous-même qu'il est impossible à quiconque de s'auto-proclamer serviteur sans être établi par le Maître. Le Seigneur, en vous établissant lui-même serviteur, la vérité qui sortira de votre bouche viendra naturellement par celui qui vous a appelé, établi et envoyé. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et avant de nous quitter, prenons un dernier passage des Écritures saintes de Matthieu 10, verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Que le Seigneur vous garde.